Vous écoutez Logosphère, l'émission de reportages et d'entretiens, de rencontres et de réflexions. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est Logosphère sur les ondes d'univers. Écoutez Résonance sur les ondes d'univers 99.9 et pour cette édition, nous accueillons Amy Kutzer. Bonjour à vous.
Et bonjour.
Amy Kutzer, vous êtes comédienne et vous proposez un spectacle de clown qui s'intitule « Tout finira bien », un spectacle dans lequel vous jouez un ange un peu perdu. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ?
On peut le dire comme ça, oui.
Donc c'est un spectacle qui s'adresse à tout public, que vous jouez régulièrement dans la région, mais pas que.
Pas que, aussi en région angevine, beaucoup.
Mm-hmm. Mm. Tout finira bien, donc je le disais, un spectacle où vous jouez un ange avec ses ailes, qui est sur Terre, qui est tout... Est-ce que vous pourriez tout simplement nous décrire en quelques mots, ce spectacle.
Alors, il s'agit effectivement d'un ange, mmh. Avec des ailes vraiment très, très grandes, qui s'apparentent aux ailes des personnages d'anges dans le film Les ailes du désir, mmh. qui a été une grande, grande source d'inspiration pour ce spectacle. Et cet ange est envoyé sur Terre, en mission, pour délivrer un message extrêmement important aux êtres humains. Mmh. Et tout son parcours va être sa difficulté à annoncer ce fameux message, que je ne peux pas donner là parce que je vais spoiler le spectacle. Mais voilà, ça va être le point clé pour lui, où il va essayer de se débattre pour essayer de dire ce qu'il a annoncé. Et ce qui va être le plus important aussi, c'est sa rencontre avec l'espèce humaine. Mmh. Et il va être tellement fasciné par ces hommes, ces femmes, ces enfants qu'il a devant lui, qu'il va vouloir même devenir comme eux. Donc c'est un peu sa quête pour l'incarnation.
C'est aussi un ange qui est chargé de délivrer un message justement aux humains et qui est en relation, on pourrait le dire téléphonique.
Oui.
Avec
l'expéditeur.
L'expéditeur de ces
exactement,
messages.
Exactement, exactement.
C'est un spectacle qui montre aussi une relation.
Oui, oui, complètement. Une relation à la fois très intime et, j'ai envie de dire, très spirituelle avec le grand tout qu'on nomme communément Dieu. Après, on peut y mettre ce qu'on veut dans ce mot-là. Et effectivement, cet ange, pour symboliser sa relation, sa communication avec Dieu, il a un cordon rouge placé au niveau du nombril et au bout duquel il y a un téléphone rouge. Et c'est avec ce téléphone rouge qu'il peut communiquer directement avec papa, comme il l'appelle.
Tout simplement, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment s'est formé, comment est venu ce spectacle dans le temps ?
Alors, sa genèse, elle est à la fois sur des choses très concrètes, c'est-à-dire que on va dire qu'il y a un moment donné où ça a vraiment démarré. Mmh. Mais je pense que ce spectacle a démarré bien avant ce moment clé. Parce que je pense que dans toute création, il y a des genèses conscientes et inconscientes. Mmh. Et en tout cas, la plus consciente, c'était que je roulais en voiture. Et à un moment donné, je traverse un champ et je me suis dit « Ah, j'adorerais voir quelqu'un jouer un ange avec des ailes immenses, comme on voit dans Les ailes du désir ». Une espèce de fantasme qu'un jour je pourrais voir ça. Et puis petit à petit, je me suis dit, mais pourquoi ce ne serait pas moi qui ferais ça, d'offrir cette image d'ange comme ça, un peu perché à des endroits dans pleine nature, en ville, en haut d'un immeuble, et que des gens, quand ils se baladent, tout d'un coup, ça les sort de leur quotidien, d'un ordinaire, et tout d'un coup cet ordinaire devient extra et il verrait cette image-là d'un ange qui ferait rien de particulier mais qui serait juste posé là. Et
donc ça part d'une image.
Ça part d'une image, une vision, ouais, vraiment une vision. Et puis dans ma tête, c'était plus « tiens, je ferais bien ça sous forme de performance artistique et pas comme un spectacle ». Et petit à petit, de situation en situation, même de synchronicité en synchronicité, j'en suis arrivée à contacter Michael Egard, qui est metteur en scène et comédien, et je lui ai demandé s'il voulait bien m'accompagner sur cette création. Et on a travaillé une semaine ensemble, et ça a été vraiment les prémices de ce spectacle. Et petit à petit, ça a continué vers la création finale.
Alors, c'est un spectacle où vous êtes en solo. Je ne l'ai pas dit dans la présentation, mais vous tenez la scène, on peut le dire comme ça, pendant une heure.
Oui.
Où justement ce message et les difficultés de cet ange à délivrer ce message et la découverte du fait d'être, de rencontrer les humains, le fait traverser aussi énormément de moments. Est-ce que vous pourriez nous dire justement un petit peu l'apprentissage que fait cet ange?
Eh ben, c'est un apprentissage qu'il fait par observation. Par exemple, lorsqu'il voit un être humain en train de se gratter le nez, ce qui pourrait nous paraître à nous complètement anodin, pour lui, ça va devenir fabuleux. Parce que je pars du principe que cet ange, donc un être invisible normalement, lui, il se croit invisible d'ailleurs quand il arrive devant les gens, il pense que personne ne peut le voir. Et le fait de voir quelqu'un se gratter le nez, ça lui donne envie lui aussi d'avoir cette sensation. Et ça me rappelle une phrase de Wim Wenders justement à propos de son film Les ailes du désir, et il dit il faut créer des anges pour que les êtres humains se rendent compte de la chance qu'on a d'avoir des sensations et donc d'être mortel. Que c'est fabuleux d'avoir des sensations et qu'il faut créer des anges pour qu'on prenne conscience que c'est fabuleux de pouvoir goûter un café, de pouvoir toucher de la peau, la sienne, celle de quelqu'un d'autre, de pouvoir avoir le soleil qui nous chauffe le visage. Des toutes petites choses comme des choses immenses, ce sont des qualités qu'on peut percevoir nous en tant qu'être humain. Et cet ange, il est en profond désir de connaître ça, donc de s'incarner.
C'est une métaphore aussi. Tout simplement, ce spectacle, est-ce que vous pourriez nous... Pourquoi Tout finira bien, ce titre?
Alors, c'est un titre que j'ai emprunté à Pina Bausch. Mm-hmm. Alors, ce n'est pas un titre d'un de ses spectacles, mais à une période de ma vie, quand j'ai découvert Pina Bausch, j'ai plongé dedans, dans tout ce qu'elle avait écrit, tout ce qu'elle avait créé.
Pina Bausch, qui était une grande
chorégraphe,
danseuse.
Une danseuse et chorégraphe allemande. Et ses chorégraphies, son œuvre, sa manière de mettre en scène les choses m'a percutée. C'est vraiment venu en plein cœur. Et dans un de ses écrits, elle fait travailler ses danseurs, elle explique comment elle fait travailler ses danseurs, et elle leur propose toute une série de phrases, de mots, et elle leur dit « dansez à partir de ce mot-là, dansez à partir de cette phrase ». Et il y avait une phrase parmi une longue liste qui était « tout finira bien ». Et cette phrase m'a percutée et elle a servi de titre pour un ancien spectacle, un duo qu'on avait créé avec un danseur de tango et j'avais cette phrase qui tournait en boucle et je me suis dit c'est un parfait titre pour un spectacle. Et puis bref, ce duo, on n'a pas continué ce spectacle, il n'a pas abouti et puis c'est resté plusieurs années comme ça sans autre création. Et puis arrivé à cette création là, c'était une évidence que le spectacle allait prendre ce titre-là, en lien évidemment avec le message que l'ange a à délivrer.
Ce spectacle est un spectacle de clown aussi, rappelons-le.
Oui.
Est-ce que vous pourriez nous parler de la spécificité du théâtre de clown, enfin, si on peut l'appeler comme ça?
On peut l'appeler comme ça, oui. Alors là, on rentre dans un grand sujet. Alors, clown théâtre, déjà, pourquoi clown et théâtre? C'est qu'on a souvent... Enfin, le clown a été, est né vraiment dans le cirque traditionnel, avec la piste. Et petit à petit, c'est comme si ce personnage de clown qui n'avait qu'une petite part dans le cirque, il avait son numéro, il avait son moment à lui. Petit à petit, il a commencé à s'extraire de la piste de cirque et puis a commencé à avoir des choses à dire. Et comme ça, au fur et à mesure des dernières décennies, de plus en plus de clowns sont apparus et apparaissent encore au sein des théâtres et ont un spectacle entier où ce n'est que le clown qui est vu. Comme on pourrait voir un spectacle uniquement d'un funambule, uniquement des trapézistes. Donc c'est comme s'il était sorti du cirque, il était allé se réfugier dans les théâtres ou dans la rue et puis créer un grand moment rien que pour lui.
Un moment, justement, d'humour, évidemment, aussi,
oui.
Qui n'empêche pas la profondeur du propos, mais où aussi on rit.
J'espère. En tout cas, moi, je ris beaucoup à l'intérieur.
C'est le cas.
oui, parce que c'est ce qui fait quand même la spécificité du clown, c'est de pouvoir transcender des choses triviales, telles que la mort, des choses qui peuvent être tragiques et qui, par le biais du rire, nous les font accepter de manière un peu plus douce. Ouais.
Oui, dans ce spectacle, Tout finira bien, vous réussissez à parler de choses, me semble-t-il, sans trop en dire, de choses graves.
Oui.
Sous l'angle de l'humour.
Ouais, exactement.
Est-ce que vous pourriez nous parler du propos ?
Ben, je dirais quand même un des propos même fondateurs du spectacle, c'est notre... je ne sais pas si c'est le mot acceptation, en tout cas c'est celui-là qui me vient, de notre condition de mortel. Parce que il me semble qu'aujourd'hui, la vision qu'on a de la mort est associé à quelque chose qu'il faut absolument éviter, ne pas voir, cacher, quelque chose même d'inacceptable. Et alors que, c'est facile à dire, hein, je ne dis pas que moi-même j'y suis arrivée, alors que c'est la chose fondamentale et qu'il ne peut pas y avoir de vie sans mort, il ne peut pas y avoir de mort sans vie, ça peut paraître bateau comme ça, mais quand on y est confronté, c'est pas si bateau que ça. Et pour avoir maintenant on revient à une des genèses du spectacle, dans mon histoire intime, en histoire familiale, la mort est présente dans mon parcours, et de faire ce spectacle là c'était c'est devenu un spectacle thérapeutique. Même en j'aime bien le qualifier aujourd'hui et je l'assume comme tel, comme un spectacle psychomagique, comme dirait Jodorowsky, un spectacle qui vient soigner l'âme, qui vient soigner nos blessures. Et parce qu'on y met du rire dedans, du coup, ces blessures peuvent guérir, j'espère en tout cas, et pour moi ça a été le cas, de manière beaucoup plus douce et plus fluide que si on mettait un gros antibiotique.
Vous parlez de l'acceptation, de la finitude, du fait d'être mortel. C'est un spectacle aussi, me semble-t-il, sur la liberté, presque existentialiste, on pourrait dire cela comme ça, à savoir accepter le fait d'être mortel pour pouvoir être libre dans le monde.
Oui, complètement. Ouais. Je pense qu'à partir du moment où on accepte le fait d'être mortel, de pouvoir mourir un jour ou l'autre, on peut commencer à goûter et savourer les choses de la vie. Ce que je disais tout à l'heure, des choses toutes petites, comme boire un café, toucher une peau. Je crois que quand on réalise à quel point notre vie peut s'achever d'un moment à l'autre, je crois qu'on prend un immense plaisir à goûter tout ce qu'il est possible de goûter, de divin. ouais, vraiment, je crois à ça.
Pour revenir à la vie de ce spectacle, où est-ce que, tout simplement, vous êtes amené à le présenter, à le jouer ?
Alors, comme vous disiez tout à l'heure, principalement en Bretagne. C'est une drôle de coïncidence, mais c'est beaucoup en région angevine, donc du côté de Angers, que j'ai eu beaucoup de... où j'ai pu le jouer plusieurs fois. Donc le réseau se situe principalement là, en Bretagne, Bretagne-Angers. Ce qui me plaît, d'ailleurs, j'aime bien jouer de manière locale et pas faire des kilomètres et des kilomètres pour jouer une date, je sais pas, au fin fond du Jura, même si j'adorerais aller jouer dans le Jura, mais pour moi, ça a du sens aussi de jouer là, dans le réseau. C'est un spectacle, du coup, que j'adore jouer chez l'habitant. Donc si vous avez un salon avec possibilité d'inviter 30-40 personnes, c'est bienvenu. Et puis sinon dans les festivals, l'année prochaine ça va être du côté de Chanzeau, mois de juillet. Je fais un peu tout à l'envers, ça me vient comme ça, mais aussi pour dire que oui, l'hiver c'est souvent le moment où je joue moins. Mmh. Petite trêve hivernale. Les anges ont froid aussi.
C'est un spectacle qui se joue aussi en extérieur très, très régulièrement.
Oui, exactement. Il a d'ailleurs, il a principalement été joué en extérieur. Et puis, quelques rares fois dans des théâtres qui ont été des expériences encore autre, moi que j'adore, vraiment, j'ai des sensations encore différentes quand c'est dans la boîte noire. Il y a un lien plus étroit, plus intimiste avec le public. Mais dehors, il y a aussi la dimension du ciel, de l'espace. Je peux jouer du coup avec tous ces éléments-là. Parce que l'ange, à chaque fois qu'il débarque quelque part, va forcément jouer avec ce qui est autour de lui. Mmh. Donc c'est jamais le spectacle, vous pouvez venir le voir à plein d'endroits différents, ce sera jamais tout à fait la même chose.
Mmh. Dans cette relation justement avec... le papa,
oui.
qui est au bout du fil, on peut le dire.
C'est ça.
Il y a ce thème aussi que vous abordez de la relation filiale et peut-être aussi du patriarcat.
Eh bien, oui, ça ne s'est pas fait de manière totalement consciente au moment de la création du spectacle. Et c'est après coup, mais même après coup, j'ai réalisé énormément de choses de ce que ce spectacle disait. Il y a même des spectateurs qui sont venus me voir en me disant « Ah, mais ça parle du burn-out, ton spectacle ?» Je fais « Ah oui ?» Et c'était une évidence pour cette spectatrice. Pour moi, ça l'était moins au départ, mais quand elle me l'a décrit, je fais « Oui, c'est vrai. » Et donc, du coup, pour revenir sur cette question du patriarcat, le fait d'être en lien direct avec donc Dieu, qui est souvent... considéré comme une figure masculine, comme le grand créateur de tout, j'avais envie, enfin ça s'est fait, et ça c'est grâce au clown, c'est lui qui a été auteur à ce moment-là, dans ma relation directe avec lui, je rajoute toujours à la fin, dès que je termine la conversation avec lui, c'est bisous, et puis bisous à maman. Et pour signifier aussi que la création... ne peut pas se faire de manière uniquement masculine, quoi. Qu'il y a le féminin et le masculin, et pour moi c'était important, mais je vous dis, hein, encore une fois, c'est venu après coup, c'est après avoir créé le spectacle, je me suis rendu compte de ça, que oui, c'était faire un pied de nez aussi à cette image qu'on a du grand créateur, qui me paraît complètement absurde. Et dans ce spectacle-là, à un moment donné, oui, il est question pour l'ange de rompre avec, avec cette grande figure, avec papa. Et de...
Vous parliez du fait de ne pas avoir forcément conscience de ce que vous formulez et qui va se présenter sur scène ensuite. Vous parliez tout à l'heure du fait de ne pas avoir conscience quand on crée, quand on imagine un spectacle, de l'ensemble de ce qui est dit et proposé et montré dans un spectacle, et que c'est au fur et à mesure... Voilà, que les
choses arrivent.
Que les choses arrivent et qu'on prend conscience du spectacle en tant que tel.
Oui, oui, c'est ça. Effectivement, dans la conception du spectacle, je ne peux absolument pas maîtriser tous les sens, tout ce qui va être dit. Je ne peux pas maîtriser non plus ce qui va être perçu. C'est-à-dire que les gens vont regarder aussi le spectacle de leur point de vue, à partir de leur histoire intime. Donc, y a des gens, comme la personne de tout à l'heure, que je citais tout à l'heure, qui me dit « Ah, ça parle de burn-out », elle-même, je pense qu'elle a une histoire avec ça. Donc, ça vient la percuter à cet endroit-là. Donc il y a tous ces sens-là qui peuvent m'échapper. Et puis quand je crée, en tout cas sur ce spectacle-là, ça a été évident. En travaillant avec le biais du clown, enfin en travaillant en clown, lui va me révéler des choses, révéler du verbe, des images que moi je n'aurais sans doute pas trouvées si je m'étais mise toute seule à ma table devant l'ordinateur, me dire alors cherchons des idées pour le spectacle. Et c'est une fois le clown au plateau en travail, donc c'est pour ça le travail avec Michael Egard était très important, le travail avec Louis Hautefort aussi que j'aimerais citer a été extrêmement important au niveau de l'écriture. Et parce qu'il a permis de révéler justement des choses inconscientes qui étaient un peu enfouies là sous la terre, sous le terreau, et qui demandaient qu'à émerger justement pour aller à la lumière.
Et il y a une mobilisation aussi mobilisation des ressources personnelles, du vécu personnel qu'on met ensuite dans ce spectacle.
Oui, oui, complètement. Pour moi, c'est tout un cheminement intime, thérapeutique aussi, parce que je crois que quand on crée une œuvre artistique, on y met forcément de notre cœur, de nos tripes, de nos sensations, de nos malaises, de nos joies, de tout ce qu'on est. En tout cas pour moi, pour essayer justement de les transcender et de les rendre lumineuses et qu'elles servent du coup le public, et pas pour dire je vous crache mon désespoir, maintenant je me casse et faites ce que vous pouvez avec. Pour moi, il ne s'agit pas de ça, en tout cas dans la création. Et le clown, en tout cas, a été salvateur dans cette démarche-là. Pour amener justement du rire.
Ouais. Vous êtes beaucoup en discussion aussi avec le public. Enfin, il y a beaucoup d'interactions de cet ange avec le public.
Oui, ouais, complètement. Il y a une grande connexion. En tout cas, il y a une connexion qui se tisse petit à petit jusqu'à devenir assez grande. Mais j'espère jamais intrusive, jamais humiliante pour le public. C'est plus un ange qui cherche à communiquer avec justement ces êtres de chair et qui va être en amour en fait pour eux, quoi, tout simplement.
Pour toutes les informations pratiques, retrouver des informations autour du spectacle, est-ce que vous auriez quelques moyens de communication qui permettent de suivre justement l'agenda des spectacles, de ce spectacle?
Oui, alors sur le site internet www.libicoco.com, donc Libicoco, c'est en un seul mot, Libi comme la libido et Coco comme la coco, tout attaché.
Très bien. Merci Amy Kotzer pour ce spectacle donc intitulé Tout finira bien, qui est l'histoire de cet ange qui découvre la vie aussi, on peut le dire comme ça,
oui.
Et que l'on peut retrouver, que l'on retrouvera.
Et bientôt, les dates arrivent bientôt, promis. Bientôt.
Merci à vous.
Merci beaucoup Mathieu.
Porque na vida associamos uma imagem. É preciso ter coragem, enfrentar e assumir a bomba que cai na cabeça. Todo dia uma notícia, mais um caso de polícia. Deu ladrão e deu justiça, deu playboy e deu milícia. Televisão cria moda, usa, explora, joga fora. Manipula teu consumo, controlar. Instabilidade pura, pura fuleiragem. Desonestidade, sacanagem. Libera o din-din, din-din pra comer. Din 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 felicidade toma conta da cidade, vem trazendo a novidade. O tanque não é pra lavar roupa, é pra dar tiro à vontade. Dá até nó na garganta, impossível respirar. Gaguejo não é coincidência, é revolta que me dá. O sistema de saúde não deita pra fechar. Você me pergunta como eu posso suportar instabilidade pura, pura fuleiragem, desonestidade, sacanagem. Libera o din-din, din-din pra comer arroz e feijão, din-din pra viver. Libera o din-din, din-din pra comer arroz e feijão, din-din pra viver. Libera, din-din-din-din-din-din-din-din-din. Libera, din-din-din-din-din-din-din-din-din. E o povo gritando justiça, referência que tá negativa. Linguagem tá conotativa, narrativa tá dubitativa. Esperança zero, zero iniciativa. Não sou boneca de fantoche, fala pra mim é bom, bom. Tanque é para lavar roupa, tiro só se for. De instabilidade, pura, pura fuleiragem, desonestidade, sacanagem. Libera o din-din, din-din pra comer.
Au bout duquel tout est parti.